Très bon réveil sur France Culture, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Arrêtez de nous enfumer. Voici l'une des phrases scandées hier par les centaines de personnes réunies à Rouen, 13 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol. On a appris que les taux de dioxine étaient 4 fois supérieurs à la normale dans une commune au nord de l'agglomération. Nous analyserons ces nouveaux chiffres dans un instant.
Nous irons ensuite aux États-Unis, où la Maison Blanche refuse de coopérer à l'enquête sur une possible destitution de Donald Trump. Son entourage fait bloc.
Pourquoi un imam salafiste fiché S n'a pas quitté le territoire français comme la préfecture le lui avait ordonné en 2015. Il aurait pu être en contact avec Michael Harpon, auteur de l'attaque à la préfecture de police de Paris il y a 6 jours. Le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué hier, vous l'entendrez.
Et puis nous nous pencherons sur le futur revenu universel d'activité. Les citoyens peuvent donner leur avis sur la réforme à partir d'aujourd'hui.
Pourquoi les présidents de région s'imaginent à l'Élysée? Voici la question que se posera Frédéric Saïs dans son billet politique. Ce sera après ce journal. Les émissions de dioxine étaient jusque-là possibles à Rouen. Elles sont maintenant avérées. 13 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso, l'organisme Atmo Normandie communique de premiers résultats d'analyse. Et ils ne sont pas rassurants, Théophile Pedrola.
Atmo Normandie a réalisé des analyses de qualité de l'air sous le panache de fumée et les premiers résultats révèlent des taux relativement élevés de dioxine dans l'air, notamment autour de Préau. Les taux relevés y sont 4 fois plus élevés que la normale. Jean-François Jeannot est professeur au CHU de Rouen. Il a analysé les résultats.
On sait qu'il y a un certain nombre de composés cancérogènes qui ont été émis. Si ça se stocke et que la population continue à être exposée, il y a potentiellement un risque à long terme. Les résultats qu'on a montrent qu'on a besoin de résultats complémentaires et ils permettent pas d'être
Pour autant, pas question de déclencher une alerte. La pollution dans l'air n'est qu'un seul élément d'analyse parmi d'autres.
La mesure de la pollution atmosphérique n'est pas forcément le bon représentant de ce qui va arriver par la suite, ce qu'il faut prendre en compte toutes les voies d'exposition.
Et notamment l'ingestion. Il faut donc des analyses plus poussées dans la terre, les végétaux et les animaux. Des analyses qui sont menées par la préfecture. C'est la conjonction de ces différentes analyses qui permettront de préciser le danger éventuel dans la zone de Préau.
C'était Théophile Pedrola de France Bleu Normandie pour France Culture. La direction régionale de l'environnement, elle, répond déjà par la voix de son directeur. Il faut attendre une synthèse de tous les résultats pour se prononcer, dit-il, alors que 130 plaintes ont déjà été déposées. Et notons par ailleurs que des habitants de la région rouennaise ont été victimes de démarchages abusifs. Des prélèvements effectués leur ont été facturés par des laboratoires sans autorisation de la préfecture. Les services de la répression des fraudes ouvrent une enquête. Cette pollution-là est reconnue et elle est visiblement difficile à endiguer à grande échelle. Paris, Berlin, Chicago, Athènes, Barcelone, au total 30 villes dans le monde ont réussi à réduire leurs émissions de CO2 de 22% en moyenne. Il faudrait toutefois une réduction de 65% d'ici à 2030 pour limiter le réchauffement climatique. Les représentants de ces grandes villes se réunissent à partir d'aujourd'hui à Copenhague, ville modèle pour un sommet donc des 30 villes dans le monde. La Maison-Blanche refuse de coopérer avec le Congrès sur l'enquête qui vise Donald Trump dans l'affaire ukrainienne. Il est accusé, je vous le rappelle, d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival démocrate, Joe Biden. Les démocrates ont donc lancé une procédure en vue d'une éventuelle destitution, procédure que la Maison-Blanche juge inconstitutionnelle. L'entourage de Donald Trump l'écrivait hier soir, Grégory Phillips.
La lettre de 8 pages, adressée hier soir à Nancy Pelosi et au président des commissions parlementaires chargées de cette enquête en impeachment, est clairement une déclaration de guerre. L'avocat du président écrit que Donald Trump ne participera pas, ne collaborera pas à ces investigations, qualifiées de partisanes et d'anticonstitutionnelles. Plus tôt dans la journée, la Maison-Blanche avait d'ailleurs ordonné à l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne de ne pas témoigner devant le Congrès alors qu'il a participé à cet échange téléphonique entre Trump et Zelensky. En refusant de coopérer, la Maison-Blanche cherche à gagner du temps, alors que les derniers sondages montrent que désormais une majorité d'Américains est favorable à une mise en accusation du président. La réponse de la patronne de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, est arrivée tard hier soir. Cinglante, votre refus de coopérer est une tentative illégale de dissimuler les faits. Monsieur le Président, vous n'êtes pas au-dessus des lois, vous devrez rendre des comptes.
Le pouvoir turc prévient, son armée franchira sous peu la frontière qui la sépare de la Syrie. Ankara fait ainsi fi des mises en garde américaines. La Turquie souhaite toujours lancer une offensive contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Les puissances étrangères s'en inquiètent car les Kurdes participent activement à la lutte contre le groupe État islamique. La Turquie encore et ce procès qui s'ouvre aujourd'hui à Istanbul, procès emblématique des violences faites aux femmes dans le pays. Un homme est jugé pour avoir tué le 18 août dernier son ex-épouse à Nandlower.
Je ne veux pas mourir. Les derniers cris d'Emine Bulut, cette Turque assassinée à coups de couteau par son ex-mari sous les yeux de sa fille de 10 ans, résonnent encore dans la tête de ceux qui les ont entendus. Le meurtre était filmé par un passant. Quelques jours plus tard, la vidéo se propageait sur les réseaux sociaux, donnant à ce fait divers un retentissement inédit dans un pays où, pourtant, chaque jour, des hommes tuent leur conjointe ou leur ex-conjointe. Zela Layman, militante des droits des femmes.
La vidéo a évidemment décuplé l'impact de ce meurtre dans l'opinion. Les images sont terribles, mais d'un autre côté, sans ce genre d'images, les gens ne voient pas et ne saisissent pas pleinement la cruauté de ces crimes.
Depuis 2014, les autorités turques ne publient plus de statistiques sur les violences contre les femmes. Les militantes comme Zelal s'appuient sur des articles publiés dans la presse pour évaluer la gravité du problème et son évolution. Et elles sont unanimes, les meurtres sont en augmentation. Au moins 225 femmes tuées en 2018, au moins 261 depuis le début de l'année. Inlassablement, les ONG répètent leurs revendications. Zela Layman.
Premièrement, appliquer les lois, le code pénal, la loi contre les violences faites aux femmes, la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Si la Turquie appliquait ces textes, une grande partie du problème serait déjà réglée. Et deuxièmement, il faut soutenir les femmes victimes de violences.
Les ONG réclament aussi que les meurtriers de femmes ne bénéficient plus d'aucune remise de peine. L'ex-mari d'Emine Bulut devrait ainsi tenter d'expliquer au juge, comme il l'a fait aux policiers, que son ex-épouse l'a provoqué. Le parquet a réclamé contre lui une peine incompressible de prison à vie.
À Nandlower depuis Istanbul pour France Culture. Un couvre-feu en Équateur. Le président Lénine Moreno l'impose autour de tous les bâtiments gouvernementaux. Depuis 6 jours maintenant, un mouvement de protestation contre des mesures d'austérité a basculé dans la violence. Cela contraint l'administration à quitter Quito, la capitale de l'Équateur. Les forces de l'ordre sont mobilisées en masse en Catalogne. Madrid est même en train d'y transférer des centaines de policiers et de gardes civils. Le gouvernement espagnol redoute en fait des incidents pour la fin du procès des dirigeants catalans, dirigeants indépendantistes. Ils sont jugés pour avoir organisé un référendum illégal d'indépendance en 2017. Le verdict est attendu dans les jours qui viennent, Sébastien Berriot.
Les indépendantistes les plus radicaux ont promis une réaction immédiate après l'annonce du verdict, la mise en place d'un vaste mouvement de désobéissance civile, des blocages de routes nationales et d'autoroutes. Le gouvernement espagnol à Madrid s'attend à des actions très violentes et c'est pour cette raison que le ministère de l'Intérieur prépare un gros dispositif sécuritaire. Des forces venues de toute l'Espagne arrivent depuis plusieurs jours en Catalogne. La mise en place est progressive. 500 agents seraient déjà sur place, venus de Saragosse, Valence ou encore Madrid. Logés dans des casernes ou des hôtels de la côte catalane, ils attendent l'annonce du verdict. Selon le grand journal de Barcelone, La Vanguardia, la quasi-totalité des forces anti-émeutes disponibles en Espagne, à l'exception de celles présentes sur les îles Canaries, vont être transférées en Catalogne dans les prochaines heures. L'objectif serait d'amener au total 700 agents de garde civile et 800 policiers nationaux supplémentaires. Madrid pourra également s'appuyer sur les Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane, même si le gouvernement espagnol préfère avoir sur place ses propres forces, car il n'a pas forcément confiance en la police catalane.
C'est aussi un mouvement de rébellion, Extinction Rébellion, mouvement écologiste international poursuit ses actions dans le monde entier. Ainsi, depuis 2 jours à Londres, la police a déjà évacué plus de 450 militants. Ils s'étaient installés dans le centre de la capitale britannique, près du quartier des ministères.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. 40 individus radicalisés ont été suivis au sein de la police française depuis 2015.
Et parmi ces 40 individus, une vingtaine a été écartée de leurs fonctions. Le reste est sous surveillance. Voici ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner était auditionné hier par la commission des lois de l'Assemblée nationale, 6 jours après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. 4 policiers, je vous le rappelle, y ont été tués. Le ministre reconnaît une faille grave, faille qui a permis à Michael Harpon de ne pas être repéré avant d'être abattu. Il aurait été en contact avec l'imam salafiste de Gonesse dans le Val d'Oise, près de son lieu d'habitation. Lui, cet imam, avait fait l'objet en 2015 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français alors qu'il officiait à Sarcelles. Voilà qui étonne de nombreux élus et notamment le député socialiste du Val d'Oise, François Pupponi.
Comment est-il possible qu'un imam radicalisé, et c'est les services de renseignement qui le disent, à qui on notifie une obligation de quitter le territoire français en 2015 est toujours là en 2019. Les services de renseignement ont bien fait leur travail, ils ont signalé la dangerosité de cet imam, ils ont demandé aux services préfectoraux de procéder, au ministère de l'Intérieur de procéder à une expulsion, et en fait, cette expulsion n'est jamais intervenue. Alors là, pour le coup, ce ne sont pas les services de renseignement qui sont en cause, c'est tout simplement les services administratifs qui doivent mettre en œuvre cette mesure, et ça n'a pas été fait.
Alors, en commission des lois hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'en est expliqué.
L'imam dont on parle et dont la presse a parlé a été admis en France le 11 décembre 2014. Début 2015, il a fait l'objet d'une OQTF qui n'a pas été exécutée, je ne sais pas pourquoi. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis, dans le cadre de la commission départementale que vous avez évoquée, avec des élus désignés par l'association des maires de chaque département, il a été décidé de lui accorder un titre valable parce qu'il a un enfant et qu'il s'est marié. Ce sont les éléments dont je dispose qui ont été la base de la décision qui ont amené à ce titre. Un titre qui est valable jusqu'en avril 2020.
Des questions donc encore ce matin quant à cet imam qui affirme lui n'avoir jamais été en contact avec Michael Harpon, si ce n'est quelques poignées de main à Gonesse. Le SNES-FSU demande la suppression des premières épreuves de contrôle continu du baccalauréat. Épreuve prévue en janvier prochain pour les élèves de première. Les professeurs, les élèves et les programmes ne sont pas prêts, estime ce matin le syndicat enseignant. Il s'agit de la première application de la réforme du baccalauréat. Après les gilets jaunes, après la réforme des retraites, après l'épandage de pesticides, voici une nouvelle consultation citoyenne lancée aujourd'hui. Elle concerne cette fois l'instauration d'un revenu universel d'activité. Revenu qui pourrait toucher près de 15 millions de personnes, Catherine Pétillon.
Ce futur revenu universel d'activité, le RUA, doit rassembler plusieurs des prestations sociales, dont le RSA et la prime d'activité, au sein d'une allocation unique. Le gouvernement juge le système actuel complexe, inéquitable et insuffisamment lisible, d'où ce nouveau revenu assorti de droits et devoirs supplémentaires. Pourquoi le RUA? À qui doit-il s'adresser? Comment devra-t-il fonctionner? Voilà les grands thèmes soumis à consultation. D'abord en ligne, la plateforme consultation-rua.gouv.fr est ouverte à tous jusqu'au 20 décembre. En parallèle, 6 ateliers citoyens, incluant des bénéficiaires de minima sociaux, auront lieu à travers la France d'ici le mois de décembre. Parmi les questions ouvertes, il y a le périmètre. Le RUA devra-t-il inclure le minimum vieillesse, l'allocation pour adultes handicapés ou encore l'allocation versée aux chômeurs en fin de droit. Doit-il être élargi aux jeunes de moins de 25 ans, actuellement non éligibles au RSA? La nécessité d'écouter des citoyens sur ces questions est l'une des leçons du grand débat, estime Jérôme Voturier de l'UNIOPS, la Fédération des associations de solidarité. Mais il importe de ne pas limiter la consultation à des questions qui sembleraient techniques.
Ce débat citoyen est nécessaire à partir du moment où on donne les outils aux citoyens pour avoir tous les enjeux du débat. Si on rentre dans le débat en disant on veut lutter contre le non-recours, on veut simplifier de manière administrative, personne en France vous dira qu'il faut rajouter une couche. Mais par contre, il faut vraiment expliquer, ne pas s'arrêter à ces deux constats. Derrière, il y a un débat quasi philosophique sur le modèle de protection sociale en France. Est-ce qu'on est sur un modèle sur la situation de l'individu uniquement ou sur l'individu dans son environnement?
Quels objectifs donne-t-on aux minima sociaux? Jusqu'à quel point doivent-ils prendre en compte les différences de situation entre les personnes? Voici quelques-unes des questions sur lesquelles les citoyens peuvent se prononcer.
À partir d'aujourd'hui, donc, c'était Catherine Pétillon pour France Culture. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées hier soir au nord de Paris, à Saint-Ouen. Elles protestaient contre l'expulsion de l'association Main d'œuvre un peu plus tôt dans la journée. Sur décision de la mairie, validée par la justice, cette association a dû quitter son siège historique où elle avait installé un centre culturel depuis bientôt 20 ans. Ses 70 salariés et intermittents sont désormais au chômage technique. L'homme de Vitruve sera-t-il visible dans quelques jours au Louvre, à Paris, lors de la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci? Cette exposition doit débuter le 24 octobre, mais le célèbre dessin est toujours en Italie. Après la brouille diplomatique entre Rome et Paris, la justice s'en mêle, Bruce de Galzin.
L'homme de Vitruve était le symbole de l'unité retrouvée entre Italiens et Français. L'accord de paix, signé il y a seulement 2 semaines, mettait fin à une querelle que l'on voulait croire lointaine. Mais finalement, c'est une association, Italia Nostra, qui a obtenu que ce soit la justice et non les États qui décident du sort des œuvres de Vinci. Cette association de défense des biens culturels s'élevait depuis plusieurs mois contre le prêt des œuvres du maître de la Renaissance pour des motifs scientifiques et de sauvegarde du patrimoine. Mais avec des relents nationalistes, la présidente de l'association dénonçant un accord entre les deux États qui plaçait l'Italie en position de subalterne par rapport à la France. Et c'est tout l'accord qui est remis en cause. Les 5 œuvres que devait prêter Rome à Paris resteront sur le territoire national en attendant la décision du juge 1 semaine seulement avant le début de l'exposition. Mais s'il décide de bloquer les œuvres en Italie, les peintures et dessins de Raphaël, que le Louvre devait prêter l'an prochain en échange des œuvres de Vinci, devront-elles rester à Paris ?
Le temps de ce mercredi qui débute, il sera agité en France métropolitaine, avec des pluies sur tout le territoire, sauf près de la Méditerranée. Ce matin, comptez 12 degrés à Lille, 13 à Rennes et à Paris, 15 degrés à Strasbourg et à La Rochelle, 21 degrés dans la matinée à Marseille, Guillaume.
Merci beaucoup, Clara Lecoq-Réal.